Gloire au Seigneur. Ouvrons le Saint-Livre dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, et à partir du verset 1er. Nous lisons ensemble. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. C'est un texte qui nous interpelle, qui est marquant. Le contexte de cette épître, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux églises de la Galatie. C'était des croyants. Mais nous voyons au tout début de cette épître, de cette lettre, que même les croyants auraient pu à un moment donné se laisser troubler parce que il y avait des personnes qui, dans les enseignements qu'elles donnaient, voulaient rajouter quelque chose à l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez retenu la manière dont Nicolas a introduit ces instants en disant qu'il y avait une bonne nouvelle. Et Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et on comprend dans ces quelques lignes que nous avons lues qu'il y a des personnes qui ont essayé par leur intelligence, parce qu'elles voulaient ramener certains préceptes de la loi juive pour que, en quelque sorte, l'œuvre de Jésus-Christ ne soit pas suffisante à l'œuvre du salut, mais qu'il fallait la compléter par quelque chose. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, et on va y venir cet après-midi, mais finalement, est-ce que la foi en Jésus-Christ constitue la seule condition pour être sauvé? Et les personnes qu'il y avait là de l'époque disaient non, il faut rajouter quelque chose. Et c'est pour cela que nous avons lu ces quelques versets, et vous l'aurez compris, nous allons nous attarder sur cette déclaration de l'apôtre Paul. Je vais vous la relire dans une autre version. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, un autre évangile. Est-ce qu'il y a effectivement un autre évangile? C'est étonnant et c'est interpellant parce que Jésus lui-même, au tout début de son ministère, va dire, et on connaît ce texte, c'est dans Luc 4 au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Alors, on comprend que d'un côté, il y a effectivement cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu annoncer, cette bonne nouvelle que cet après-midi nous allons vous annoncer. Mais il y a un danger qui est là, c'est que effectivement, on peut être en recherche d'une autre bonne nouvelle. On peut être en recherche d'autres choses qui viennent remplacer l'évangile, la bonne nouvelle. On peut être en recherche d'autres choses qui viennent, comme nous l'avons lu, renverser l'évangile. Et cet après-midi, bien évidemment, nous sommes libres de choisir quelle bonne nouvelle nous voulons. Parce que s'il est évident, et Jésus l'a dit au début de son ministère, que le Saint-Esprit, l'Esprit l'a oint, ça veut dire que l'Esprit de Dieu l'a rempli pour qu'il puisse annoncer cette bonne nouvelle, donc on comprend que d'un côté, il y a cette bonne nouvelle qu'il vient de Dieu pour notre salut, cette bonne nouvelle divine qui veut nous donner la vie, et d'un autre côté, on comprend que l'homme sera toujours tenté de se détourner de ce que Dieu a instauré, de se détourner de ce que Dieu a institué pour se tourner vers une autre bonne nouvelle. Et il est évident que si la bonne nouvelle de Dieu donne la vie, laissez-moi vous dire que la bonne nouvelle que cherche l'homme, en dehors de Dieu, ne donne pas la vie. C'est pas possible. Ça donne la mort, et c'est la Bible qui le dit. Alors, j'ai pensé parcourir au travers de certains textes bibliques pour qu'on puisse voir ensemble que cette question-là, qui peut être une question actuelle pour quelques-uns cet après-midi, cette question de se dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre évangile, peut-être un autre évangile avec lequel nous pourrions nous accommoder, nous pourrions avoir un évangile qui ressemble plus à l'homme. C'est une question qui peut être actuelle, mais qui était déjà présente du temps du Seigneur Jésus-Christ. Et au travers de cela, nous allons voir la bonne nouvelle. Alors je l'ai appelée, excusez-moi, mais vous comprenez la pensée. Il y a l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Et il y a aussi ce que l'homme aimerait, et je l'ai intitulé « L'évangile de l'homme qui donne la mort ». La première des choses que j'aimerais partager dans l'évangile de l'homme, dans cet autre évangile, c'est que l'homme aimerait penser qu'il n'est pas pécheur, que le péché n'existe pas. On se souvient de ce texte dans l'évangile de Jean, où Jésus est en train de parler de la vérité, de parler du fait qu'on a besoin de le connaître, parce que c'est de connaître Jésus-Christ qui va nous accorder, nous apporter cette liberté. Et dans la pensée de l'homme, cette pensée qui n'a pas beaucoup évolué, dans l'évangile de l'homme, cette bonne nouvelle que l'homme aimerait avoir, il y a cette pensée que finalement, on n'a pas besoin d'être affranchi. Vous vous souvenez peut-être pour certains ce que les hommes religieux de l'époque ont dit: on n'a jamais été esclave de personne. Et aujourd'hui encore, l'homme pense que finalement, il n'est pas pécheur, que l'homme n'est pas esclave du péché. Maintenant, la Bible, la bonne nouvelle de Dieu, c'est cette bonne nouvelle qui nous dit que oui, nous sommes pécheurs, mais qui nous donne la solution en Jésus-Christ. Parce que si cet après-midi, je me permets d'opposer un peu ces choses, ce n'est pas pour accabler, ce n'est pas pour rejeter la faute sur qui que ce soit, mais c'est simplement pour dire que dans le cœur de Dieu, il n'y a rien qui a changé. La bonne nouvelle de Dieu est encore disponible. Maintenant, nous pouvons choisir de sortir de ce lieu en disant « je rejette la bonne nouvelle de Dieu, je préfère mes propres pensées ». Parce que si l'Évangile, si la Bible nous parle du fait que l'homme est effectivement pécheur, la Bible nous parle aussi qu'il y a une solution pour être libéré du péché. On continue dans l'Évangile de l'homme, dans ce que l'homme aimerait rechercher dans cet autre Évangile. L'homme pense que s'il n'est pas avec Dieu, il peut être neutre. Et c'est des choses que l'on rencontre régulièrement. « Oh, vous savez, je ne suis pas avec Dieu, moi je suis là dans mon coin, je fais de tort à personne. » Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ, et c'est la suite de l'évangile, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, c'est clair, c'est si on n'est pas avec Dieu, si on n'est pas réconcilié avec Dieu, il n'y a pas de terrain neutre, ce n'est pas possible. Si on n'est pas dans la lumière, on est dans les ténèbres. Si on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu, et Jésus pourra dire à ces personnes, vous avez pour père le diable. Alors ça, c'est pas facile à accepter. C'est pas facile à prendre, et peut-être que je l'ai dit d'une manière abrupte, mais c'est une réalité. Mais encore une fois, nous voyons que si l'homme s'entête, reste, demeure fixe dans cette voie, dans ce chemin, en disant « mais je n'ai pas besoin de Dieu, moi je suis dans mon coin, j'essaye de faire des bonnes actions, j'essaye d'être un homme honnête, ça devrait suffire pour passer ma vie comme ça, et au cas où, si Dieu existe, ça devrait suffire le jour où je vais me retrouver devant lui », laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est ici-bas, la Bible nous dit, et la bonne nouvelle est là de notre Seigneur Jésus-Christ, est là pour nous dire que nous pouvons, ici-bas, être réconciliés avec Dieu pour que notre éternité se passe plutôt bien. Dans l'évangile de l'homme, cette bonne nouvelle, cet autre évangile que l'homme aimerait, il y a cette réalité que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 18 et au verset 30, c'est que l'homme veut faire de Dieu un malfaiteur et veut faire de l'homme un bienfaiteur. Et c'est une pensée que l'on retrouve actuellement aujourd'hui, dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, dès qu'il y a la guerre, dès que quelqu'un perd un être cher, dès qu'il y a des attentats, dès qu'il y a des scènes de violence, des personnes vont se tourner vers Dieu en disant « ah mais si Dieu existait, pourquoi est-ce que cela arrive ?» Vous voyez que dans le cœur de l'homme, rien n'a changé. Les hommes qui ont amené Jésus-Christ devant Pilate ont pu dire « si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré ». L'homme veut faire de Dieu un malfaiteur et veut se faire lui un bienfaiteur, parce qu'au travers de ce texte, on comprend que pour eux, il leur a semblé qu'ils ont fait une bonne action. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la vérité. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle qui est là pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions comprendre que dans l'histoire, ce n'est pas Dieu qui nous doit des comptes, mais c'est nous qui devons peut-être rendre compte à Dieu de notre vie, de notre existence. Mais l'amour de notre Seigneur est là pour nous ramener à ce qu'il a fait, à l'œuvre de la croix, pour que nous puissions saisir l'importance de son amour, l'importance de régler ici-bas notre vie, pour que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui est rempli de miséricorde à notre égard. Dans l'évangile de l'homme, on continue, j'ai quelques versets, on comprend que l'homme aimerait finalement que la parole de Dieu s'adapte à nos besoins. C'est dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60, et tout le contexte bien évidemment. On y voit là Jésus enseigné. On voit Jésus qui parle des profondeurs de son être, du fait qu'on a besoin de le connaître réellement. On a besoin de lire la parole. On a besoin de comprendre que la parole est le livre inspiré de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et Jésus est en train de parler de ça. Il est en train de dire, mais vous devez, et notre frère y a fait référence ce matin pour ceux qui étaient là, vous devez manger ma parole, ma chair, pardon. Vous devez manger ma chair. Vous devez prendre ce qui a écrit dans ce saint livre comme la réalité absolue. Et c'est cela qui nous dirige vers Dieu. C'est cela qui nous fait comprendre que Dieu a une bonne nouvelle à nous dire, que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous, que Dieu est rempli d'amour, de délicatesse à notre égard. C'est ce livre extraordinaire qui nous montre combien Dieu nous aime au point qu'il a voulu donner son Fils pour nous. Mais l'homme, lui, ne veut pas. L'évangile de l'homme, c'est un évangile, c'est une bonne nouvelle qui veut refuser la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire que si vous refusez la parole de Dieu, vous ne pourrez pas rencontrer la paix ici-bas. Vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais découvrir celui qui pourra combler votre vie. Parce que l'homme cherche en tâtonnant. Le chemin dans sa vie, dans son existence, ce chemin qui pourra le conduire à une vie épanouie, une vie où va régner la paix, la joie, le bonheur. Mais sans Jésus-Christ, on ne peut pas trouver ces choses-là. La seule bonne nouvelle, le seul évangile qui est capable de nous faire changer, de nous transformer, le seul évangile qui est capable de venir rebâtir notre existence, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour venir sur cette terre, pour s'offrir sur le bois de la croix. Oh, beaucoup de personnes veulent discuter la parole de Dieu. Beaucoup de personnes aimeraient peut-être que la Bible ne parle pas de péché. Beaucoup de personnes aimeraient que la Bible ne parle pas de repentance, de demander pardon. On voudrait une Bible peut-être qui nous parle uniquement de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais la réalité n'est pas ainsi. Parce que si, pour bien comprendre l'amour de Dieu, il faut bien comprendre ce que nous sommes, notre état de pécheur. Pour bien comprendre la miséricorde de Dieu, il faut comprendre que sans lui, nous sommes perdus. Il y a cette autre pensée que nous retrouvons dans la parole de Dieu, d'hommes qui ont manifesté un rejet de Jésus-Christ pour se tourner vers eux, vers ce qu'ils auraient aimé instaurer, l'évangile de l'homme qui pense qu'un autre roi que Dieu peut le rendre heureux, qui pense que finalement sa vie peut être comblée par autre chose. C'est dans Jean chapitre 15, Pilate va dire aux Juifs qui avaient amené Jésus-Christ « Crucifierai-je votre roi ?» Et les hommes religieux, les Juifs qui étaient là, alors qu'ils avaient une connaissance religieuse, une certaine connaissance même de la parole de Dieu, et laissez-moi vous dire qu'il faut plus que cette connaissance. On a besoin de plus que de connaître une partie de la Bible, que de connaître Jésus-Christ de nom. On a besoin de le connaître d'une manière profonde, personnelle. Ces personnes vont pouvoir dire « Nous n'avons de roi que César ». Et aujourd'hui encore, nous rencontrons ces mêmes personnes, et peut-être c'est votre cas cet après-midi. Vous vous dites que finalement, vous pouvez vous passer de Dieu. Vous vous dites que finalement, et vous pouvez être tenté de dire « Mais je veux un autre évangile, un évangile qui me dit que dans le monde, je peux trouver ce qui pourra combler ma vie, que dans le monde je pourrai trouver ce qui va pouvoir me donner la paix, que dans le monde je vais trouver ce qui va pouvoir me donner de l'espérance. Est-ce que l'argent peut donner de l'espérance? Est-ce qu'une bonne situation professionnelle, familiale, peut donner la joie et une paix profonde qui ne dépendent pas des circonstances? Est-ce que le fait de réussir ici-bas, d'avoir pour roi dans sa vie, peut-être sa propre personne, son travail ou autre, ça peut faire en sorte que nous soyons réconciliés avec Dieu? Nous n'avons de roi que César. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, cette bonne nouvelle que lui-même est venu annoncer, et c'est un verset que je vous cite depuis quelque temps maintenant, mais parce qu'il a bouleversé ma vie. Jésus-Christ a traversé les cieux pour venir nous annoncer la seule et l'unique bonne nouvelle dont nous avons besoin pour notre existence. On peut chercher ici-bas beaucoup de choses qui remplacent Dieu, qui remplacent le sacrifice de Jésus-Christ. On peut essayer beaucoup de choses, on peut chercher dans de nombreux chemins, mais la Bible nous dit qu'il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Peut-être que vous êtes là et vous avez essayé par mille et une choses de vous passer de Dieu. Peut-être que vous avez essayé dans votre vie tellement de chemins pour essayer autre chose, peut-être pour vous convaincre vous-même que finalement vous n'aviez pas besoin de Dieu, que finalement vous pouvez avoir votre propre bonne nouvelle, un autre évangile. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas d'autre évangile par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle par laquelle nous pouvons être sauvés que cette nouvelle extraordinaire que Dieu est venu parmi les hommes pour s'offrir sur le bois de la croix. D'ailleurs, la croix, vous savez, pour refaire le lien avec cet autre évangile, l'évangile de l'homme, c'est une bonne nouvelle où finalement la croix n'est pas nécessaire. Où finalement on n'a pas besoin de la croix. On n'a pas besoin du sacrifice de Jésus-Christ. On se souvient de cette scène, et c'est relaté dans les évangiles, où les principaux sacrificateurs face à Jésus-Christ, lorsqu'ils vont le voir crucifié, les mains percées, les pieds percés, la couronne d'épines sur sa tête, vont lui dire « Mais si tu es le Christ, descends, sauve-toi toi-même. Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Oh, l'homme aimerait pouvoir dire que la croix, ça ne sert à rien. Et peut-être que c'est vous qui l'avez déjà dit dans votre cœur. Vous ne voyez pas l'intérêt de la croix. Vous ne comprenez pas pourquoi Jésus est mort sur la croix. Alors, peut-être que vous cherchez un autre évangile. Dans cet évangile, peut-être la croix n'est pas présente. Mais laissez-moi vous dire qu'il était nécessaire que le sang du juste puisse couler pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Parce que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Nous avions besoin d'un sauveur. Vous avez besoin d'un sauveur cet après-midi. Vous avez besoin, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. On a besoin de saisir que c'était nécessaire l'œuvre de la croix. C'était nécessaire que Jésus-Christ s'offre d'une manière volontaire pour que nous puissions être restaurés. N'en avez-vous pas assez ? D'essayer par tous les moyens possibles de trouver autre chose dans votre vie que Dieu ? N'êtes-vous pas lassé en vous-même de réfléchir inlassablement à qu'est-ce qui pourrait remplacer Jésus-Christ ? Il n'y a rien, au risque de me répéter, il n'y a rien qui puisse remplacer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas d'autre moyen qui nous ait été donné pour que nous puissions être sauvés, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'œuvre de la croix. D'ailleurs, le même apôtre Paul va dire que la croix pour les uns, ça reste une folie. Dans l'évangile de l'homme, ce que l'homme peut-être aurait aimé, c'est que Jésus ne soit pas ressuscité, qu'il n'y ait pas de résurrection. On se souvient de ce passage, c'est relaté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, où alors que ceux qui avaient fait arrêter Jésus-Christ, ceux qui avaient fait crucifier Jésus-Christ, ont appris que le tombeau était vide, ont appris que Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau. Vous savez, la Bible nous dit que la mort n'a pu le retenir. Que la mort n'a pas pu retenir le Fils de Dieu qui s'est offert pour nous. Et c'est cela notre espérance. Parce que s'il est nécessaire qu'on soit réconcilié avec Dieu, c'est parce qu'un jour on le sait, ou vous ne le savez pas et vous l'apprenez maintenant, nous allons et nous devrons tous comparaître devant Dieu. Et il faut que nous soyons en règle avec Dieu. Et Jésus-Christ a vaincu la mort et ressuscité, pour que nous puissions voir le chemin qui nous attend. Mais des hommes ont voulu dire « la résurrection n'existe pas ». L'homme voudrait que Jésus ne soit jamais ressuscité pour que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ reste au compte des fables et de l'invention humaine. L'homme voudrait que Christ ait été emporté, disparu. L'homme voudrait, et c'est ce que certains ont fait, offrir une certaine somme d'argent pour qu'un mensonge soit divulgué, pour dire, mais voyez, vous allez dire qu'ils l'ont volé, vous allez dire qu'il est encore mort. L'homme voudrait cela, mais laissez-moi vous dire que la mort n'a pas pu retenir notre Sauveur, parce qu'il était nécessaire, c'était dans le plan de Dieu, qu'après avoir accompli cet acte extraordinaire pour nous, mais tellement de souffrance pour lui, l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ puisse remonter auprès de son Père. Et il prie pour nous. C'est cela l'évangile. La bonne nouvelle, ce n'est pas le salut un jour, ce n'est pas la paix de notre Dieu un seul jour, mais c'est tous les jours que Jésus-Christ est avec nous, parce qu'il est vivant. C'est tous les jours qu'il veut nous bénir, parce qu'il est vivant. C'est tous les jours qu'il veut être avec nous, parce qu'il a vaincu la mort et qu'il est vivant. C'est tous les jours qu'il veut être à tes côtés, pour t'encourager, pour te montrer le chemin, parce que c'est un Dieu vivant que nous aimons. Parce que c'est un Dieu vivant qui veut être avec nous dans notre quotidien. Je terminerai par rapport à l'évangile de l'homme, parce que l'homme aimerait dire qu'il n'y a pas d'éternité. L'homme aimerait dire que finalement, notre vie se passe ici-bas, que à la mort, tout est fini. C'est pas ce que la Bible nous dit. Et je l'ai déjà dit, et je le répète d'une manière volontaire, parce que le livre des Hébreux nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il y a quelque chose après la mort. Il y a l'éternité. On connaît ce verset, peut-être on s'est tellement habitué à l'entendre qu'on ne considère plus ce qu'il dit réellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une éternité après la mort. Ce n'est pas fini. Et le message de notre Seigneur Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, et je terminerai avec sa bonne nouvelle, le message que Jésus est venu annoncer, c'est ce message où Dieu nous a tellement aimés qu'il ne veut pas qu'on termine l'éternité loin de lui, dans la condamnation éternelle. Le message de Jésus-Christ, c'est ce message d'amour qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui veut que tous parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de la vérité. L'homme voudrait dire, et peut-être espère, que la mort, après la mort, c'est fini. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité. Et peut-être que quelqu'un lutte avec cette pensée, ferme son cœur à cette pensée. Mais laissez-moi vous dire que c'est une bénédiction que Dieu ait fait ça, pour permettre à tous les êtres humains de chercher qui, où est-ce qu'il pourra aller après sa mort, de pouvoir recevoir la paix quant à la mort. Il y a des personnes que la mort terrifie. Il y a des personnes qui sont persécutées, angoissées par la mort. Mais le chrétien, lui, l'enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui s'est repenti, pour lui, la mort, c'est rien, c'est un sommeil. C'est dans l'attente d'être pour l'éternité avec notre Dieu. Alors, pour faire le lien avec quand même cette épître aux Galates, j'aimerais terminer avec ce texte qu'on pourrait lire ensemble, ça se situe dans Actes chapitre 13. À partir du verset 32. Nous lisons « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Le verset 38 nous dit, sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez compteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la racontait. La bonne nouvelle, c'est cela. La bonne nouvelle de notre Sauveur, c'est que nous pouvons être pardonnés, réconciliés. Et il y a ce verset que j'aimerais laisser sur votre cœur, parce que c'est un verset extraordinaire. « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. » Il n'y a pas de limite dans l'amour de notre Dieu pour nous, dans ce qu'il veut faire dans notre vie. Il n'y a pas de limite dans la restauration, dans la grâce de notre Dieu. Alors cet après-midi, nous avons le choix, comme à chaque fois, comme à chaque instant. Est-ce que nous voulons l'évangile de l'homme, quelque chose qui pourrait satisfaire notre intelligence, ou est-ce que nous voulons cette bonne nouvelle divine de notre Dieu, l'amour divin qui veut restaurer, qui veut guérir, qui veut pardonner? On peut prier le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles combien tu nous as aimés, combien tu désires que nous puissions être réconciliés avec toi. Seigneur, merci de nous conduire. Père, tu vois dans ce lieu qui a été tenté de chercher un autre évangile, qui a été tenté de chercher autre chose que toi, Jésus-Christ, que ton œuvre à la croix, que ton sacrifice. Seigneur, nous voulons proclamer avec foi, avec assurance, que nous n'avons pas besoin d'autre chose que de toi dans notre vie. La solution est en toi, Jésus-Christ. Notre restauration est en toi. Notre pardon est en toi. Seigneur, merci parce que tu veux le communiquer encore cet après-midi. Tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Seigneur, la porte de la grâce est encore ouverte. Que cet après-midi, tu puisses permettre à quelqu'un de passer cette porte. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as prévu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.